Bonne, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Bonsoir à toi qui écoute Radio Canu après des formidables bandes continues. Il est 22h et passé de 2 petites minutes et c'est l'heure de la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h environ. Et ce soir à la technique nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est loin le micro.
Oui.
Mais non, c'est pas vrai.
Ou est-ce que elle, peut-être, elle est loin, on ne sait pas. Nous avons aussi Fab.
Bonsoir. Et Jean-Yves qui fait l'ouverture.
Bonsoir. Alors, eh bien, on va vous rappeler comme à notre habitude comment nous joindre, nous écouter, tout ça. Alors évidemment, si vous voulez nous joindre par mail, c'est à lacauseriecanu@gmail.com. Comme si vous voulez évidemment écouter toutes ces formidables 456e causeries précédentes, c'est sur le blog qu'il faut aller. Vous tapez blogs avec un S, blogs.radiocanu.org/la causerie ou dans votre petit moteur de recherche, vous tapez la causerie Radio Canu, parce que sinon vous allez être...
Ou la causerie Canu.
Oui, mais voilà.
Mais Canu quelque part.
Oui, c'est ça, faut qu'il y ait Canu quelque part, sinon vous allez tomber sur plein d'autres choses. Voilà. Quoi d'autre?
On est aussi sur les podcasts, aka la balado-diffusion.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. We present.
Non, mais c'est pour si on a des Québécois qui nous écoutent.
Oui, c'est ça. C'était pour pas les Français, voilà. C'était pour ça.
Balado-diffusion. C'est joli.
C'est ça. Et on a aussi une petite page sur un réseau socio-commercial d'un certain Marc Z. Mmh. Voilà, on y reposte juste les mises à jour du blog après l'émission du dimanche. Donc voilà. Mais si vous voulez vraiment nous contacter, c'est passer vraiment par le mail ou par le blog.
Ouais. Les commentaires fonctionnent de nouveau,
oui.
Donc vous pouvez aussi laisser un commentaire,
oui.
Et ce sera avec plaisir.
Même si on est follement déçu que tous les autres échanges qu'on a pu avoir avant aient disparu.
Oui, mais tu le dis à chaque fois, mais c'est pas grave.
Parce que ça me fend le
cœur. En fait, ils n'ont pas disparu, ils ne peuvent pas être réouverts, c'est ça la différence. Oui, parce qu'ils ont été, ils sont encore là.
Ceux qu'on avait déjà dans le passé.
Oui. Ils sont de nouveau accessibles, mais ils ne sont pas rouverts.
Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Alors, je retire ce que j'ai dit. voilà, je crois qu'on a tout dit, n'est-ce pas?
Bah oui.
Ouais.
Et normalement, c'est toi qui vas démarrer ce soir en nous parlant, un petit peu. Alors, c'est un mélange entre entraide, anarchie et beauté.
Et beauté. Tu me diras donc où tu la trouves.
Oui, je te le dirai à la fin.
Ouais, d'accord, pas de souci. Alors, vous vous souvenez peut-être, si vous nous écoutez régulièrement, ce que j'espère évidemment, ce que je vous souhaite. Le mec, il devient fou et autoritaire, tu sais.
Sinon, ça va chier.
Alors, vous savez que peut-être, dans les brèves d'une émission passée, en fait, on vous avait annoncé une soirée de soutien qui avait eu lieu à Lyon, mi-octobre, le 17 d'ailleurs, même si je me souviens bien, avec des membres de l'ABC Bélarus. Alors, l'ABC, c'est-à-dire l'anarchiste Black Cross, autrement dit, la croix noire anarchiste. Alors, Kézako, donc, l'ABC. Alors, si vous êtes militant ou militante anar ou anti-autoritaire et ou anti-autoritaire, vous le savez sûrement, mais j'ose espérer, oui, je suis un peu naïf des fois ou plein d'espoir, je ne sais pas, que nous ne sommes pas qu'écoutés par le milieu militant anar. Donc, ça s'adresse surtout aux autres. Hein. Donc, l'ABC, c'est un réseau international anticarcéral de soutien aux prisonniers et prisonnières anarchistes et antifascistes, qui fait de l'échange d'informations, des projections, des campagnes financières pour aider les prisonniers et prisonnières, des événements de solidarité, etc., etc. L'anarchiste Black Rose a été créé au début des années 1900 en Russie, et les ABC, parce que oui, il en existe plusieurs dans différents pays. Donc les ABC, hein, sont des collectifs autonomes les uns des autres. Par contre, il existe quand même des principes, on va dire, fondateurs contre lesquels les ABC ne peuvent pas aller. Notamment la volonté de ne pas soutenir les prisonniers racistes ou coupables de viol, ou encore les prisonniers qui vont donner des informations sur d'autres prisonniers, sauf si évidemment ces derniers sont contraints sous la torture. Donc là, évidemment, ce n'est pas la même chose que de balancer pour balancer et améliorer ses jours. Donc voilà. Alors, côté historique, hein, les origines de l'ABC donc, remontent à la Russie de 1905. Ce groupe s'appelait à l'origine, en fait, l'anarchiste Red Cross, donc Croix-Rouge, dans la Russie tsariste, hein, et avait pour but d'apporter de l'aide aux prisonniers politiques ainsi qu'à leurs familles, mais également de mettre en place des moyens de défense contre les raids politiques de l'armée cosaque. Alors le nom, hein, de l'organisation fut changé en Anarchiste Black Cross lors de la guerre civile russe pour éviter les confusions avec l'International Red Cross.
L'international, la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge internationale. Internationale,
la Croix-Rouge internationale, dans l'autre sens.
C'est ça. Alors, retour à aujourd'hui, donc, lors de cette soirée, en fait, de soutien qui a eu lieu dans d'autres villes françaises, mais pas que aussi, je crois, en Suisse et en Allemagne, si je ne me trompe pas. Durant le mois d'octobre, donc, les militants et militantes biélorusses de l'ABC nous ont fait un peu un historique du soulèvement d'août 2020, qui a eu lieu en Biélorussie, évidemment. Donc, souvent, quand même, la Biélorussie, pour rappel, hein, elle est souvent nommée la dernière dictature d'Europe, même si, évidemment, ça se bat un petit peu en ce moment pour savoir quel sera le plus autoritaire des soi-disant présidents. Alors, pour mémoire, 2020, en fait, c'est l'année d'une nouvelle élection d'Alexandre Loukachenko, qui est à la tête du pays quand même depuis 1994. Un grand démocrate, donc, vous l'aurez noté, ce Loukachenko.
D'ailleurs, hein, un grand démocrate de son point de vue devant l'éternel,
oui,
vu qu'il est aussi chef de l'église biélorusse, comme l'autre, Poutine, est chef de l'église russe.
Ouais. Même si après, au début de ses élections, il tentait de prendre la distance, mais bon.
Oui, bon, il n'a pas pris longtemps.
Non, la laisse était assez courte quand même.
C'est ça.
Donc après cette soi-disant élection, enfin cette élection avec soi-disant 80% des votes, hein, pour Loukachenko, en fait, des Bélarusses, en fait, descendent dans la rue, et pas que dans la capitale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a surpris pas mal le pouvoir, hein. Donc au matin du 12 août 2020, le bilan répressif était d'environ 6000 arrestations. Alors ça, c'est le chiffre officiel. Donc on peut se dire que la réalité est certainement plus importante, évidemment. On avait aussi plus de 150 hospitalisations et au moins 5 personnes tuées par la police. Donc ça, c'était... l'élection, c'était le 6 août, si je ne me trompe pas. Donc en une semaine, vous voyez à peu près les formidables chiffres de la police bélarusse. Donc chaque dimanche, hein, à l'époque, des manifestations massives réunissaient pacifiquement tous les contestataires. Donc ça a duré quand même assez longtemps, mais le régime, qui était au début sidéré par une mobilisation qu'il pensait impossible, et surtout pas que concentré à Minsk, hein, encore une fois, faut pas oublier ça aussi, c'était vraiment éclaté sur tout le territoire bélarusse. Et ben finalement, bon, le pouvoir, il a quand même sorti l'artillerie lourde, hein, une répression féroce, policière et judiciaire, faut pas l'oublier. Et la tactique du régime, en fait, a été de procéder ensuite par étapes et de faire taire en premier lieu les contestations qui avaient lieu dans les provinces, on va dire, en dehors en tout cas de la capitale. Oui. Donc c'était vraiment, il y a vraiment une tactique vraiment de tuer tout le mouvement à l'extérieur de la capitale pour ensuite concentrer toutes les forces sur Minsk.
Alors, si je peux me permettre, c'est une tactique qui n'est pas nouvelle, parce que c'est exactement ce qu'a fait Poutine en Tchétchénie, lorsque la Tchétchénie s'est soulevée, et qu'il fallait aller régler le problème. Vous souvenez, il fallait tuer les Tchétchènes jusque dans les chiottes.
Voilà. Oui.
En fait, au départ, la Russie avait attaqué la capitale, puis finalement ils se sont rendus compte que c'était un peu partout, donc ils ont d'abord massacré et éteint autour de la capitale avant de raser Grozny.
Oui, c'est ça.
Et en fait, cette technique là, en fait, elle est de plus en plus, par beaucoup de dictateurs, reprise, parce que malheureusement elle fonctionne. Alors évidemment, là on n'est pas dans le cadre où on a détruit des villes, hein, c'est pas l'idée, mais c'est l'idée de dire on s'occupe d'abord
d'autour. C'est une tactique d'attaque ou de défense, en tout cas, on va dire.
On s'occupe d'autour et après on concentre concentre sur la capitale et là on y va à fond parce qu'on a toutes les forces du coup, parce que comme autour s'est calmé entre guillemets, c'est surtout réprimé, on a toutes les forces pour venir écraser les derniers contestataires.
Voilà. Donc une police évidemment équipée de tout l'armement moderne, parce que ça aussi ce que rappellent les compagnons et compagnonnes de l'ABC Bélarus, c'est que enfin la Biélorussie c'est pas un pays ultra pauvre qui est mais c'est aussi détruire un peu ces images qu'on pourrait croire perpétuelles
je me demande même si on n'avait pas la France vendu du matériel policier à une époque en la Biélorussie je dirais dans les années 90-2000.
C'est possible.
Non mais franchement il me semble que c'est possible.
Et donc cette police équipée de tout l'armement moderne et à laquelle en fait le gouvernement a donné, on va dire, carte blanche, c'était les mots des compagnons de l'ABC Bélarus, et avec pour conséquence des tortures physiques et psychologiques. Donc ce qu'on peut se dire c'est que le terrorisme est bien du côté du pouvoir, qui d'ailleurs n'a pas hésité à tirer par exemple 2 balles, une pour chaque genou, dans les genoux d'un opposant, ou aussi fracasser la gueule des militants et militantes, et évidemment tout ça pris en photo et des photos diffusées. C'est pour ça que je parle de terrorisme étatique, mais vraiment l'idée c'est de terroriser qui que ce soit voudrait contester le pouvoir politique fraîchement élu démocratiquement. Vous connaissez l'ironie ? Il y en avait un petit peu là.
Ah oui, il me semblait. Quelques grammes.
Quelques grammes d'ironie. Donc, les pires méthodes, évidemment, sont à l'œuvre. Je vais en donner quelques exemples. Y compris aussi une sorte de prise d'otage, en fait. Parce que le pouvoir politique et policier et judiciaire n'hésitait pas à emprisonner des proches de militants qui pour certains avaient pu quitter le pays ou autre et à faire pression en fait sur les militantes recherchées par le pouvoir politique au travers des familles qui restaient au pays quoi. Aux milliers de prisonniers se sont ajoutés donc 10 morts au moins, et quand même pour certains qui étaient parmi les morts, qui étaient retrouvés dans les bois le lendemain de leur arrestation. Sûrement un coup de déprime après une arrestation, on va dire.
Ça doit être ça.
En fait,
on sait, dans ces trucs-là, c'est souvent parce que la torture entraînant la mort, on laisse croire ou on maquille ça, soit par un suicide, soit on dit il a fui et puis il a dû mourir de froid la nuit, et des choses comme ça, alors qu'on sait qu'en fait, ils ont été exécutés pendant un acte de torture. Enfin, c'est évident. Ouais.
Bref, comme je le disais, le terrorisme d'État a fonctionné, l'opposition est réduite au silence et les militantes et militants anar sont réduits eux aussi au silence et à la clandestinité. Alors au sujet justement de ces soulèvements 2020, etc., moi je vous invite, je pense qu'on mettra le lien sur le blog, à lire une brochure en fait qui s'appelle Je sors, qui en fait est une analyse critique de la révolte contre la dictature au Bélarus. Parce que là vraiment je vous réduis ça en quelques mots, mais il y a eu des mouvements aussi d'ouvriers, il y a eu des grèves, c'était pas juste 10 anarches qui allaient s'amuser, etc. C'est pas du tout l'idée.
On peut préciser que critique ne veut pas dire qu'on dit que c'est nul.
Non,
mais dans l'esprit français, je dis ça parce que la notion de critique, c'est se retourner sur ce qui a pu ne pas marcher.
C'est ça.
Et pour essayer de faire en sorte que ça marche la fois d'après.
C'est ça.
Mais c'est pas de dire, ils auraient dû faire comme ça, ou voilà.
Ah oui, non.
C'est pas l'idée. Le mouvement, il était plutôt spontané et c'est une bonne chose quand les choses sont spontanées. C'est plutôt de se dire, à quel moment on a peut-être raté un truc qui a permis au pouvoir justement de reprendre la main et de nous écraser.
Oui, c'est ça. Et puis même dans la contestation même, il n'y avait pas que des anars. Ça aussi, c'est intéressant de ne jamais l'oublier. C'est-à-dire que quand une contestation ou une révolte ou une révolution se lève, y a plein d'oppositions. C'est pas juste que des anars. Ça peut aller des sociodémocrates aux plus libéraux des libéraux.
Parfois même l'extrême droite qui se mêle à ça parce qu'elle y trouve un intérêt moment-là.
C'est ça.
Et on ne sait pas pourquoi, des nationalistes, des choses comme ça.
C'est ça.
Et c'est sûr que c'est protéiforme et complexe.
C'est ça. Alors, durant la soirée, la guerre en Ukraine a aussi été évoquée. Ça aurait été dur de faire sans. D'ailleurs, c'était les compagnons de l'ABC Bélarus qui a absolument tenu à en parler parce que pour eux, c'était absolument impossible de ne pas en parler de par la situation. Parce que déjà, évidemment, la Biélorussie ou le Bélarus est un marchepied pour l'armée de Poutine. On s'en souvient, quelques corps militaires sont partis du Bélarus pour attaquer l'Ukraine.
Ça permet de rentrer rentrer par le nord de l'Ukraine.
C'est ça. Et là encore, on sait que Poutine, je crois, remet du monde sur le Bélarus pour pouvoir de nouveau attaquer, etc., en Ukraine. Donc voilà, mais il y avait aussi... la Biélorussie est donc un marchepied pour l'armée de Poutine dans sa guerre impérialiste. Ça aussi, hein, je reprends les mots aussi des compagnons et compagnonnes, parce que pour eux, c'est une guerre impérialiste de la Russie poutinienne envers un pays qui devrait lui être soumis. C'est vraiment enfin, ce qui se dégageait des échanges qu'on a pu avoir avec elle et eux. Quoi. Donc, mais aussi parce qu'il y a eu des actions en fait, au Bélarus, hein, y a eu des actions de sabotage, enfin, on sait qu'il y a eu des actions, des tentatives d'action, etc., dont aussi une manif, hein, je crois quelques jours après le déclenchement de la guerre, une manif, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais je vais dire entre guillemets citoyenne, de gens, quoi, qui fut durement, évidemment...
Populaire.
Populaire, je suis pas plus fan non plus.
Ouais,
voilà.
Je sais pas quel mot.
Du peuple
mot,
ouais. Et donc, voilà, donc une manif durement réprimée à Minsk, hein, évidemment, mais... ainsi aussi, ils nous ont parlé aussi des militantes Anar et Antifa qui se sont engagées dans une lutte armée en Ukraine contre Poutine, quoi. Donc,
ouais. il faut aussi ça rappeler que beaucoup de Bélarusses en fait ont fui parce qu'ils étaient menacés de mort en Bélarus et ont été accueillis, recueillis en Ukraine.
C'est ça.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'Ukraine était une nation où on pouvait trouver refuge. C'était ça l'idée.
Ouais.
Et ils soulignaient d'ailleurs qu'ils avaient été particulièrement bien accueillis, au sens même un peu surpris de l'accueil, entre guillemets, en disant, bah voilà, alors que c'était des Bélarusses, les Ukrainiens auraient pu se dire, oui, bon, attendez, voilà. Non, ils ont dit, ouais, ok, venez, vous fuyez votre régime et tout. Et effectivement, il y en a qui ont pris les armes, du coup, côté ukrainien,
c'est ça,
pour combattre l'armée poutinienne.
C'est ça. Et l'idée défendue hein, par les militantes de l'anarchiste Black Rose Bélarusse, elle n'était pas simpliste, hein, ni béni oui. Ils et elles n'ont pas nié la présence de fâcheux dans les troupes armées ukrainiennes. Alors, j'ai pression de vous dire, je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup plus qu'en France. Hein.
Peut-être même moins.
Non mais voilà, parce que ça, c'était aussi un gros truc sur lequel pas mal de pro-Poutine aimaient bien s'appuyer, alors que bon...
Bah, ils ont fait un rappel dans la soirée que je trouvais très intéressant, en disant qu'on ne va pas les nier parce qu'ils existent, mais par contre qu'ils n'avaient ni poids politique, c'est-à-dire au sens des élections en Ukraine avant le déclenchement de la guerre, ce qui nous rappelait qu'ils faisaient entre 2 et 5% maximum dans les élections locales et les élections nationales, donc c'est-à-dire que c'est largement moins qu'en France, par exemple, hein, où les fachos font 41% quand même des votants au second tour de l'élection présidentielle, hein, faudrait pas l'oublier. Et il nous rappelait que oui, ils existaient, mais il nous disait, tout comme existaient des compagnons déjà organisés, autonomes ou anarchistes, qui avaient déjà dans l'idée d'être dans des positions de défense et qui, eux, faisaient partie, eux aussi, de colonnes, comme on dit. Voilà, et moi, j'aimais bien quand ils faisaient si Poutine aurait pu dire... Enfin, il y en a un qui avait dit, Poutine aurait pu trouver l'excuse de dire, je vais dé-anarchiser l'Ukraine plutôt que dénazifier. Ben, simplement, on prenait un épiphénomène et on le montait en épingle pour dire, voilà, en fait, ma raison, c'est ça. Alors que la vraie raison, comme il leur a rappelle, c'est une guerre impérialiste, une volonté de récupérer des terres et rien d'autre derrière.
C'est ça, tout comme aussi il et elle ont rappelé hein, ce que voudrait dire en fait une victoire de Poutine en Ukraine et les portées politiques en fait que ça aurait alors, aussi bien évidemment au Bélarus, mais aussi donc évidemment une consolidation du pouvoir de Loukachenko, mais aussi sur tous les pays qui sont, on va dire, sous la houlette de l'impérialisme russe, et il y en a quand même un petit paquet, et donc ça, faut pas non plus, enfin, ils et elles ne l'ont pas nié, et ce qui fait que, enfin, pour pas vous mentir, quand ils avaient leur table de presse, ils avaient des autocollants avec le Z de l'armée poutinienne, rayé, quoi. Donc il y a un vrai positionnement, et il y a ni une glorification de la prise d'armes, alors ça, j'aimerais aussi dire, il y a pas de glorification de tout. Ça.
Il y a un non-choix en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est un réel, c'est une réalité. Et souvent dans nos milieux militants là, où on va plutôt bien, en fait, on a un peu du mal avec le réel. C'est-à-dire qu'on théorise beaucoup, on se branle beaucoup sur les livres du passé, sur les guerres du passé, sur machin. Là, sauf que les compagnons en Ukraine, Bélarus et Russie, c'est le réel en fait.
Bah, hein. Comme ils le soulignaient dans les documents qu'ils ont passés, parce qu'ils projetaient des documents, on voyait quand même dans l'approche que c'était un crève-cœur de prendre les armes. C'est-à-dire que c'était pas les gens sont pas partis. Alors, je parle vraiment des anarchistes et des anti-autoritaires qui ont pris les armes face à cette armée. Ils sont pas partis la fleur au fusil en disant c'est génial, super. Non, il y a vraiment une réflexion complexe qu'ils ont dû mener. Mais après, enfin, moi je me rappelle de la phrase qu'il disait, où il disait une victoire de Poutine, c'est 70 ans de nuit, quoi.
Oui, c'est ça.
Et cette expression, elle est hyper forte, quoi, de dire, pour eux, ils disent qu'il faudra des décennies pour se relever d'une victoire de Poutine, quoi.
C'est ça.
Et je suis, alors moi, à titre personnel, entièrement convaincu par ce qu'ils pensent. Je pense sincèrement qu'une victoire de Poutine serait un déclencheur de quelque chose, d'un effondrement, en fait, dans la région russe et Europe de l'Est, comme on en a peu imaginé, je pense, et avec une remontée, effectivement, d'un pouvoir ultra-autoritaire, même si Poutine disparaissait derrière. C'est-à-dire que ça ouvrirait un portail sans fin, en fait,
consoliderait tous les régimes autoritaires, etc. Et ça, hein, je veux dire, alors que là, on parlait effectivement d'un soulèvement qu'il y a eu il y a 2 ans, un soulèvement que même le pouvoir bélarusse avait du mal à imaginer, et qui a eu lieu. Donc là aussi, il y a quelque chose de « Ok, ça n'a pas marché cette fois-ci, mais ça veut quand même dire que les gens peuvent sortir, peuvent lutter, peuvent... » Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, un petit peu, j'ai envie de dire. Alors que là, évidemment, une victoire de Poutine et de son armée, surtout.
Parce que lui, il va pas sur le terrain.
Évidemment, ça serait tuer dans l'œuf tout cet esprit
plus long
d'arriver à des nouveaux soulèvements révolutionnaires et de révolte. Alors, évidemment, hein, je vais pas ici vous faire un retour mot pour mot de cette soirée, même si... pour Clara, c'est déjà trop long. Non, je rigole, je taquine. Mais plutôt de vous donner envie, en fait, de découvrir un peu plus sur l'ABC bélarusse. Et pourquoi pas, si vous le pouvez, leur apporter votre soutien. Parce que là aussi, c'est aussi ça, l'idée de leur tournée, on va dire, en Europe de l'Ouest. C'était appelé à soutenir leur lutte, en fait. Et ce soutien, en fait, il peut prendre de multiples formes. Alors, il y a déjà, faire connaître la situation des anars et des antifas au Bélarus autour de vous, parce qu'en fait on peut toutes et tous devenir des petits relais, et c'est plutôt joli aussi cette notion là, on devient des relais, mais comme pour plein d'autres luttes, hein, c'est-à-dire juste se réapproprier à un moment donné cette lutte, ou en tout cas la porter aussi et diffuser de l'info autour de vous, parce que ce qui se passe de l'autre côté du monde, ça nous regarde aussi, parce que c'est l'histoire de l'humanité, quoi.
Enfin, là, en l'occurrence, c'est de l'autre côté du monde très près.
Mais je
le dis parce que...
Ouais, mais ça, j'ai pas envie de rentrer dans le kilomètre non plus.
C'est pas mon idée. Mon idée, c'est juste de dire qu'on a toujours l'impression, quand on parle, que c'est loin, toujours loin. Mais en fait, tout est prêt aujourd'hui, quoi.
Ah, oui. Après, il y a des réalités kilométriques, quand même.
Oui.
Ah, bon, bref. Mais aussi, appeler à la solidarité avec ses prisonniers et ses prisonnières. Et là aussi, ça peut prendre plusieurs formes. Alors, vous pouvez écrire aux prisonniers un simple mot, c'est ce qu'il et elle disaient, une description de vos journées. En fait, c'est juste essayer d'apporter un petit peu d'autre chose que des murs, et parce que durant la soirée, ils ont aussi montré ce qu'étaient les prisons bélarusses, etc., les lieux où les gens sont enfermés. S'agit pas de dire c'est pire là-bas que, mais c'est juste, oui, il faut leur apporter des points de vue, des sorties, on va dire, imaginaires.
Un peu d'aération.
C'est un peu d'air dans les esprits qui, dans leur journée, qui sont entre quatre murs, voilà. Donc ça peut être effectivement aussi de la poésie, des dessins, etc. Et que les membres de l'ABC, donc de l'anarchiste Black Rose Bélarus, transmettront aux compagnons et compagnonnes emprisonnés. Alors là aussi, on vous mettra le lien sur le blog. C'est en anglais, mais vous pouvez facilement y aller. Avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui, on peut tranquillement et facilement traduire. Je suis moi-même pas un gros anglophone, et pourtant, on peut y arriver. Il y a un autre moyen, c'est aussi, aller sur Black Mosquito. Alors, c'est un site allemand, si je me trompe pas, qui vend du matos, qui vend des t-shirts, etc. Et dont certains sont consacrés à l'ABC Bélarus. Donc, l'anarchiste Black Rose Bélarus. Et l'argent qui est récolté par l'achat de ces fringues, etc., ça ira aussi dans la caisse de l'ABC. Vous pouvez évidemment aussi verser directement de l'argent à l'ABC, à l'anarchiste Black Cross, j'aime bien le redire quand même. Et là, pareil, c'est sur le site, c'est très simple, et on tâchera de vous mettre tous ces liens sur le blog. Comme ça, si vraiment, vraiment, vous aurez prémâché tout le truc, quoi. Donc, il n'y aura plus d'excuses, quoi.
Donc, tu vas cracher de la thune, auditeur, auditrice. Non, mais c'est vrai que, bien sûr, je le précise, hein, tout est sécurisé.
Au sens,
ils savent très bien faire.
Oui.
Vous inquiétez pas, l'argent ne va pas directement en Biélorussie, n'est pas captable. Voilà, ils sont très doués. Oui. Donc, voilà.
Oui, on a aussi beaucoup de choses à apprendre d'eux.
Oui.
Donc voilà, donc évidemment, ce que je vous disais, les pages sont en anglais, mais comme dit, vous pouvez largement traduire très facilement et sans galérer. Et aussi, bah, tiens, vu que bah, c'est des choses que j'ai découvert moi dans sur leur table de presse, il y a des lectures aussi, dont je vous parlais avant de la brochure Je sors, mais il y a aussi Sur le chemin de Magadan, de Ihar Alinevich. Qui en fait lui a été enfermé dans les geôles bélarusses. Donc là aussi on vous mettra le lien parce que je l'ai trouvé en brochure et vous pouvez le lire via internet, mais je sais que par exemple à Lyon, je crois que à la librairie
La Griffe, librairie libertaire,
vous pouvez aussi le retrouver. Donc voilà, et après selon les villes où vous êtes, vous devrez pouvoir demander à vos libraires préférés.
Vous pouvez le faire commander à vos libraires,
ça peut être
intéressant d'ailleurs aussi.
Ouais, alors j'ai plus le nom de l'édition, mais voilà, mais on vous mettra tout ça sur le site. Et juste aussi pour finir, je rappelle, je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi un groupe en fait Anar Bélarus en fait qui tient aussi, on va dire, un site d'information et de réflexion et de texte, et eux sont aussi évidemment, vous l'imaginez bien, sous la pression du pouvoir bélarus, et le site et le groupe c'est Pramen. Donc là aussi on vous mettra des liens sur le blog de l'émission, et d'ailleurs Pramen, dont un des derniers articles porte sur la réflexion, en tout cas, voire plus que de la réflexion, sur le pacifisme de certains milieux militants anar et antifa.
Dans l'Ouest européen.
Dans l'Ouest européen, donc là où on vit actuellement, sur ce qui se passe justement en Ukraine, etc. Donc c'est aussi très intéressant de se prendre des points de vue qui peuvent être un petit peu à contre-courant de ce qu'on peut avoir ici, et qui viennent un peu nous secouer, quoi, et nous ramener au réel, en fait. Parce que là, encore une fois, il s'agit de réel. Et évidemment, je vous invite à découvrir les autres ABC. Alors, pour rester dans la région, il y a aussi une anarchiste Black Rose à Moscou. Donc, bon, en Russie, Poutine, tout ça. Donc, vous imaginez bien que là aussi, ce sont
des... C'est super facile.
C'est ça. C'est des groupes aussi qui ont des difficultés. Donc, là aussi, enfin, en Russie, il y a eu beaucoup d'arrestations. Là, dernièrement, il y a eu une grosse affaire où encore, je crois, 6 ou 9 antifascistes ont été arrêtés en Russie. Donc voilà, il y a aussi besoin de soutien. Et encore une fois, enfin, ce que disent souvent les anars, hein, c'est que la solidarité, c'est une arme. Et c'est une des armes des anarchistes. Pas que, évidemment, je suis pas en train de nier la notion de solidarité à tous les autres, mais la solidarité sans les frontières, c'est un truc qui quand même est partagé par les anars, ou en tout cas qui doit l'être, parce que les frontières, ce ne sont que des petits traits qu'on a dessinés, n'est-ce pas, et que c'est l'humanité tout entière
tout à fait
qui nous intéresse. Voilà, ouais, voilà, c'est un peu une fin abrupte.
Non, mais justement, moi, je vais quand même te répondre sur beauté. Parce que tu m'as dit pourquoi tu disais beauté. Alors moi je vais vous dire pourquoi j'ai dit beauté, c'est parce qu'en fait malgré tout ça, malgré la violence, malgré tout ce qui est subi, eh ben il reste bourré d'espoir. Oui. Et moi je sais pas comment ils font, mais moi quand je vois nos milieux où finalement ça va pas si mal chez nous et où on est capable de s'auto-détruire la tête en se disant ah là tout est foutu, mais là vous avez des gens qui gardent un espoir dingue, qui rayonnent au sens premier du terme, c'est-à-dire que bah ils vous parlent et vous vous dites mais ils font pas ça comme des tribuns.
Non, et puis c'est pas de la communication.
Non, c'est leur façon d'être. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent bon, bah, au moins on est là. Donc voilà, on essaye un truc. Et puis, toutes les cartes postales, tous les t-shirts, tout ce qui est fait, c'est d'une beauté absolue. Mmh. Donc, au sens, en fait, bah, on va quand même pas faire un truc crade et moche, sous prétexte que la situation, elle est crade et moche. Non, en fait, ils font des trucs qui sont très beaux. Il y a des poèmes magnifiques. Il y a des dessins superbes.
Des cartes à l'aquarelle magnifiques. Enfin, c'était très, très beau.
Voilà. Et moi, ça m'a rappelé une chose qu'on dit souvent. La dernière chose qu'on ne pourra jamais tuer, c'est l'espoir. Mmh. Et en fait, c'est la beauté de l'espoir. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, elle est là. Et là, elle s'exprime. Voilà pourquoi beauté.
Ouais, t'as raison. Non, mais oui. Et en plus, enfin, c'était aussi quelque chose que soulignait une des compagnonnes de l'anarchiste Black Rose, c'est qu'ils n'étaient pas là pour se déprimer, pour nous déprimer.
Ah non, clairement pas.
Et que en fait, il y a aussi justement ce que tu disais, il y a une forme d'espoir, de un côté revigorant, de se dire allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aide les compagnons, il faut qu'on aide tout ça. Et que là aussi, en fait, on se rend compte d'un coup que bah tiens, en fait. C'est les compagnons qui sont dans un autre pays lointain, bah c'est juste des frères et des sœurs humaines, hein. Ouais, je sais, je suis un peu hippie comme ça, mais je m'en fous. Voilà, enfin, c'est aussi, enfin, voilà, il y a une sorte de, ouais, on est frangin et frangine, c'est comme ça, on est de l'espèce humaine, et la solidarité, c'est tout, quoi. Il y a que ça, quoi, de vrai et de bon. Donc, ouais, allez-y, quoi, enfin, soutenez et faites diffuser tout ça autour de vous. C'est absolument important. Et évidemment, on pourra peut-être un jour reparler d'autres opérations, d'autres organisations, etc. Parce que je trouve que c'est justement un de nos piliers chez les anars, la solidarité internationale.
Vous pouvez aider l'ABC à Malaisie aussi.
Oui.
Voilà, qui existe. Enfin, vous pouvez toutes les trouver. Oui. Voilà. Ouais, un coup de main, c'est ça. Aider.
Et ben voilà, on part tout de suite en musique. Toujours à l'écoute de Radio Canu. Oh, ok.
Il y a un souci ?
Ouais, je m'entendais pas fort et d'un coup fort. Donc vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, c'est toujours la causerie comme tous les dimanches de 22 à 23h. Et là, on vient de s'écouter un extrait du tout nouvel album des Vulvassassines. Et le titre, c'est Le Préfet.
Et l'album, c'est Das Kapital.
Tout à fait. Eh bien, c'est Fab qui prend la suite. N. Vous avez dit un anti-trans ?
Oui, c'est ça. Mais qui sont ces anti-trans bruyantes du moment ? Alors, y a un nouveau terme qui semble émerger dans les médias, surtout poussé par l'aile conservatrice et de droite. Hein, ça va souvent de pair. Quoi qu'il y a des conservateurs de gauche qui sont guère mieux que les conservateurs de droite. Le terme de femélisme. Féministe, pardon. Alors, voilà. Alors, en France, il est porté en particulier par deux militantes, Marguerite Stern et Dora Mouto, hein, qui ont écrit un manifeste des femellistes, ou féministes, ou. C'est dur à dire.
Mais voilà. Bah, c'est femelle.
Femelle avec ISTE à
ouais,
la fin.
C'est ça. Hein.
Donc, ce terme, rien que par sa tournure, hein, il devrait quand même susciter un peu la méfiance. Hein, voilà. Et pourtant, moult plateaux de télévision et de radio leur sont gentiment ouverts, ainsi que des journaux, depuis un certain temps. Voilà, comme si c'était logique. Bon,
alors, c'est dans l'air du temps, la réaction.
Ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi, il ne faut pas se mentir. Alors, c'est quoi le femélisme ? Voilà. Alors, c'est en fait la version française...
Fais-nous rêver.
En fait, c'est pas compliqué, c'est la version française des TERF. Alors là, vous dites, mais c'est quoi les TERF? Alors, les TERF, en anglais, c'est les trans exclusionary radical féministes. Voilà. Ou féministes radicales excluant les personnes trans, en français. Voilà. Alors, c'est-à-dire que pour ces personnes, les femmes trans ne sont pas des femmes, mais des hommes qui se travestissent. Voilà. D'ailleurs, sur le plateau de l'émission Quelle époque, hein, Dora Moutot dira à Mariko, la première femme trans élue maire en France, que c'est un homme transféminin. Voilà. Alors c'est histoire quand même de mégenrer deux fois, hein. Pourquoi pas, allons-y. Voilà. En mégenrer, je rappelle que c'est utiliser sciemment le mauvais genre d'une personne, hein. C'est donc un peu comme le racisme, vous voyez, c'est comme on emploie un mot pour voilà, et de sous-entendre que c'est une forme de travestissement qu'elle a en face d'elle, hein, voilà, comment dire, un fait, bien entendu, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une femme, ouais, non, elle a découvert tout ce qu'il y avait sous cette personne en face, voilà. Ouais, ça me... C'est vraiment, j'ai envie de gerber, mais voilà. Alors, elles placent en fait leur logorée de haine, hein, parce qu'on va pas non plus tourner autour du pot, c'est une logorée haineuse, sur les mêmes bases que les conservateurs et les racistes. Tout est biologique. Alors, quitte d'ailleurs à raconter de la merde d'un point de vue scientifique, hein, c'est la biologie au sens politique du terme, pas au sens scientifique. Hein. N'est femme que celle qui naît femme au sens ultra restrictif biologiquement parlant. Donc, vous l'aurez compris, si on suit ces féministes, ni les personnes intersexes, ni les femmes nées sans utérus, ni les femmes non fertiles ne sont des femmes. Et alors, les personnes trans, encore moins. Pour elle, voilà. Une fois qu'on a... Ça fait un paquet de monde, hein, qui sont quand même exclus de la sphère femme.
Ouais, et puis c'est beau cet essentialisme utérien.
Oui. Oh oui, utérin. C'est beau, hein, c'est... Bah, tout est dans l'utérus.
Utérin. Utérin.
Oui, utérien. Utérien. Ce délire, hein, parce que c'en est un, ne vient pas de nulle part, hein, parce qu'on va pas non plus penser que c'est sorti.
Oui,
comme
c'est
ça,
sorti,
hein,
comme ça.
En fait, c'est l'importation en Europe du concept de natural woman, alors qui était déjà volé, hein, parce que je rappelle que natural woman, c'est un titre. C'était un titre qui fait moi sentir qui était chanté, je ne sais plus par qui. Pardon, je l'ai pas noté.
Je vais chercher.
Voilà. Et donc ça a été pris exprès pour sonner comme ce titre de musique, mais ce qui n'a rien à voir.
Mais ce qui veut donc dire femme naturelle.
Ouais, fait moi sentir femme en fait. Voilà. Donc c'est le fameux courant natural woman qui a été développé sur le continent américain, que ce soit aux USA ou au Brésil, par les conservateurs évangélistes. Donc là déjà on voit bien que c'est pas du côté de gens très sympas. Il est d'ailleurs lié au courant de l'intelligence. Intelligent design, ouais.
Pardon, mais Natural Woman, c'était d'Aretha Franklin.
Ouais, Aretha Franklin, tu cherchais, voilà. Donc, il est d'ailleurs lié, hein, ce courant, à l'intelligent design. Vous savez, c'est ce truc qui remet Dieu au centre de tout et dont on avait déjà parlé dans la causerie, qui est aussi une belle fumisterie, hein, faut quand même le dire.
Ah, déjà Dieu au départ, alors si en plus tu mets au milieu de tout.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup quand
beaucoup
même.
De fumée. On a donc là donc des féministes, se disant de gauche, qui ne font que recracher les thèses les plus réactionnaires du moment, à coup de fausses indignations et de soi-disant défense du féminisme, parce que c'est toujours le truc à la mode. Et ne nous y trompons pas, en France, elles sont soutenues par Valeurs Actuelles, Marianne, Le Figaro, Boulevard Voltaire, CNews, Civitas, La Manif pour tous, etc., etc. C'est là que j'ai trouvé tous leurs interviews ou leurs relais, hein. Donc, et je vous invite à faire le boulot, hein. Vous cherchez les deux noms là, puis vous verrez par qui elles sont reliées. Bien sûr, il y a des articles qui les critiquent, qui sont dans la presse plus à gauche ou dans la presse anard. Mais c'est pour les critiquer, c'est pas un relais dans ce cas-là. Dans le terme de relais, on est là-dessus, hein. Mais elles continuent donc à se penser et à se dire de gauche. Voilà. Alors bon.
Voilà. Alors on savait qu'il restait plus grand chose à gauche, hein, dans les idées, mais là quand même.
Il y a un moment. Alors, la biologie, construction, tout ça, etc. Alors, on va revenir quand même sur la biologie, hein, dont se réclament ces militantes. Alors, on va leur rappeler, hein, s'il y en a une qui écoute, ou attention, tu vas avoir mal aux oreilles. Alors, la biologie n'est pas aussi tranchée qu'elles le disent, voilà. Si elle reconnaît à la biologie deux sexes majoritaires, donc deux sexes de naissance majoritaire, le mâle et la femelle, depuis l'arrivée des études ADN et la vision moins binaire que cela a entraîné, parce que l'ADN ça permet un petit peu de se dire, ouh, bah, c'est pas si simple que ce qu'on pensait, elle reconnaît aujourd'hui la biologie aussi un spectre plus large et des variations plus marquées d'environ 10% des naissances. Voilà, c'est-à-dire qu'ils disent, bah, on n'est pas 100% femelle, 100% mâle dans 10% des naissances, c'est comme ça. Voilà. Oui, c'est pas un délire, parce que là, la réponse, je l'ai lue, hein, d'une des deux, là, qui dit, oui, mais ça, c'est parce qu'ils sont sous le joug du lobby LGBT.
Ah oui, évidemment, c'est le lobby.
Alors, pas du tout, c'est juste que, alors, je vais le faire comme ça, parce que j'ai envie. Ma chérie, écoute-moi. Non, en fait, à l'ADN, c'est récent. Et en fait, oui, du coup, on a appris à s'en servir, c'est tout. Et c'est pas un lobby, c'est juste qu'en fait, quand on a un nouvel outil, ça permet d'affiner ce qu'on disait avant. C'est le principe de la science, mais ça va aller. Voilà.
Non, mais et puis toujours, c'est retour des lobbies, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, t'as le lobby LGBT, un temps, il y avait le lobby juif, il y a aussi le lobby... Enfin, c'est incroyable, c'est, ouais, c'est vraiment ouf, quoi.
Alors, en fait, c'est en partie, donc, ces variations dont je parlais, les personnes intersexes. Mais pas seulement, en fait, en réalité. On a, par exemple, découvert que des femmes identifiées comme telles portent un ADN proche de celui d'un homme théoriquement. Voilà. En gros, la vision des militantes féministes, elle est datée même du point de vue de la science. Voilà, ouais, je suis désolé, hein, c'est comme ça.
Non, il faut vraiment qu'elle retourne au Moyen-Âge. Hein.
Ou aller prendre des cours de science aussi. C'est sympa,
ça aussi,
la fac, c'est sympa. Alors, en prime, c'est bien la société qui nous attribue des rôles et pas les chromosomes, jusqu'à preuve du contraire. La vision de ce que sont les femmes et les hommes, c'est une vision qui est construite de toutes pièces par des règles, des lois, des traditions, des habitudes d'une société donnée. C'est pas la naissance uniquement, ou ce que vous avez entre les jambes uniquement. Les fameux attributs féminins ne le sont que parce qu'une majorité décide que c'est le cas, que ces attributs sont féminins. La robe portée par les hommes pendant des siècles ne s'est féminisée qu'au cours du 15e siècle, par exemple. Voilà, il y a des régions dans le monde où les hommes continuent à porter des robes sans que personne se dise oh, il ressemble à une femme.
Oui, je crois que dans la cour des rois, on portait des bas en soie.
Ouais, et des, oui, des choses comme ça, voilà. Les cheveux courts ou longs n'ont pas la même signification selon l'époque, selon la région géographique, selon ce que vous voulez, quoi. Le maquillage non plus. Par exemple, s'il est très mal vu en Europe pour un homme de se maquiller, il est très bien vu, même dans les pays d'ailleurs du Maghreb, pour un homme de mettre du kohl, parce que ça fait partie de l'attribut de beauté, comme on dit. La place de chaque genre, et non de chaque sexe, hein, voilà, parce que c'est une construction, c'est là que ça convient compliqué là. Eh bien, elle aussi définie et mise en place par des codes, des lois, des moyens de coercition, mais pas par un état naturel ou je ne sais quoi encore. C'est-à-dire, c'est bien la façon dont on fait société qui définit la place de chacun dans la société. D'ailleurs, un exemple tout bête, si les hommes homosexuels étaient féminisés, c'est parce qu'on attribuait l'homosexualité à la faiblesse qui était attribuée aux femmes, mais c'était bien une construction sociale d'attribuer la faiblesse aux femmes et pas une réalité ni physique ni réelle, c'était juste
du patriarcat.
Du patriarcat de base. Et le patriarcat, en fait, c'est un outil politique, social et sociétal qui est pensé, entretenu et voulu. C'est bien pour ça qu'il peut être abattu. Bah oui, par définition. Donc ramener en fait le genre à la simple construction biologique, c'est d'ailleurs finalement renforcer le patriarcat en laissant entendre qu'il y aurait une sorte d'ordre naturel des choses. Et là, moi, ça me glace un peu le sang, l'ordre naturel des choses, voilà.
Comme bah, si... Surtout quand ça vient de la bouche de personnes qui se disent soi-disant de gauche, quoi.
Ouais, voilà. Comme si c'était pas notre façon de faire société qui donnait une place à chacun et chacune, plus ou moins libre, finalement. Voilà. Ce qui d'ailleurs défrise en fait ces militantes de la petite haine anti-trans, hein, je vais les appeler comme ça, c'est que notre société a décidé justement de dépasser le biologique et d'aller vers le ressenti, le vécu pour définir le genre de chacun et donc la faculté d'en changer aux besoins de genre. Voilà. C'est en fait le progrès qui leur fait peur. Et c'est d'ailleurs, tout ça s'est ressorti au moment de la fameuse affiche du planning familial qui expliquait qu'il y avait des hommes trans, parce que oui, il y a des gens qui sont sur leur carte d'identité hommes, mais qui peuvent porter un enfant, donc ils sont des hommes enceints, et donc ils sont bien trans, hein, oui, voilà, ils sont bien enceints, et que le planning avait fait une affiche parmi 14 autres pour dire, chez nous, on peut vous aider à avoir une grossesse sans que vous soyez stigmatisé, parce que c'est pas facile dans la société, voilà, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs. Oui. Mais voilà, et c'est là qu'en fait, c'est ressorti. Vous voyez, donc c'est cette peur-là, vous voyez, comprenez, oulala, les codes sont tous chamboulés. Alors, bon, elles vont aussi colporter, évidemment, de fausses rumeurs, hein, comme d'habitude, sinon c'est pas marrant. Alors, bien sûr, il y a la fameuse fausse rumeur des enfants qu'on mutilerait, alors que non, hein, les opérations de réassignation de genre ne peuvent avoir lieu qu'à partir de 18 ans et sont très, 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 très trop encadrées. J'ai le trop et volontaire de ma part, parce que franchement, c'est un vrai parcours d'une complexité folle et que je trouve parfois prendre des précautions, c'est bien enfermer les gens et leur empêcher d'aboutir à quelque chose parce qu'on a peur de la peur du micro-truc, c'est juste débile. Et je rappellerai aussi que l'hormonation ne peut se faire que sous contrôle strict d'un endocrinologue ou d'une endocrinologue que de toute façon, l'hormonation est toujours réversible. Parce que vous arrêtez de prendre des hormones, vous revenez en arrière. C'est le principe, hein, voilà. Donc, dans tous les cas, ça va. on se détend, voilà. Et puis bon, comme elles ont un peu peur de des mutilations, alors elles parlent des mamectomies, hein, elles disent voilà, les mamectomies, tout ça, voilà. Alors, plus on aide en fait une personne trans à ne pas avoir de puberté, moins les seins poussent, moins elles ont besoin de mamectomie. Attention, c'est compliqué dans leur tête tout ça, mais voilà. Et de la même façon, je vais juste rappeler à ces chères militantes que je les ai pas beaucoup entendues s'offusquer du fait qu'on pouvait envoyer des enfants à 16 ans en prison comme des adultes, par exemple. Vous voyez, hein? C'est-à-dire qu'en France, on peut pas choisir son genre, pas sortir d'une situation extrêmement douloureuse et de souffrance, mais on peut aller en tôle. À 16 ans, tout va bien. Voilà, donc
ça se tient.
Ça se tient. Alors, mais aussi hein, l'idée, l'autre idée qu'elle met en avant, qui moi m'a fait beaucoup rire, mais pas trop. Enfin, jaune. C'est aussi que des milliardaires transhumanistes, ouais. Vous savez, les fameux milliardaires transhumanistes auraient infiltré le milieu LGBT pour passer leurs idées à travers les personnes trans. Waouh, balèze. Donc, on imagine Elon Musk, hein, parce que c'est lui, oui. Hein, le transhumaniste. Alors, je vais juste leur rappeler qu'Elon Musk, il a soutenu Donald Trump. Hein.
Oui, et pour peut-être aussi rappeler que les personnes transgenres existaient avant Elon Musk.
Ouais.
Attention, grosse coupe, mais je préfère prévenir.
Alors en fait, cette affirmation, c'est mot pour mot les délires de Jennifer Bilek. Hein. Alors je vous invite à aller lire le blog de Jennifer Bilek. Alors prenez un saut avant, hein, parce que c'est une blogueuse américaine antisémite et transphobe. Hein, voilà.
Ça fait beaucoup.
Et d'ailleurs, c'est donc cette idée, elle a été reprise par les QAnon et Trump. Aux États-Unis. Et donc, elle est arrivée en France et aujourd'hui, elle est reprise par deux militantes, hein, donc Dora Mutto et Marguerite Stern. Je pense qu'il va falloir qu'elles réfléchissent à d'où elles sortent leurs idées, quand même, par moment. Alors, il y a aussi l'idée que les trans, c'est quand même une mode. Ah, bah évidemment.
Évidemment.
Ça, moi, j'entendais beaucoup dans les années 90 que l'homosexualité était une mode aussi. Je vous emmerde. Et alors, non. Les trans, c'est pas une mode. C'est un argument qui est avancé, voilà. En fait, c'est confondre la visibilité avec une mode. Alors, si aujourd'hui les jeunes trans, les jeunes personnes trans arrivent à le dire plus tôt, c'est pas par mode, mais bien parce qu'elles ont accès à plus d'informations. Et surtout que la transidentité, bah, c'est plus un crime. Donc, c'est un peu comme l'homosexualité, vous voyez. C'est jusqu'en 82, c'était criminalisé. Donc, on évitait de sortir dans la rue en disant, ouais, je suis pédé. Voilà. Non, parce que la prison, c'est sympa, mais pas trop. Là, maintenant qu'on a décriminalisé la transidentité, étonnamment, les gens osent plus facilement le dire.
Mais oui, en fait.
Voilà.
Mais en fait, je me dis, en fait, c'est juste. En fait, peut-être que dans les années à venir, on arrivera à ce qu'une personne trans, homo, etc., ne sorte plus du placard à 50, 60 piges,
ouais,
en fait.
Et ce serait tant mieux.
Mais oui, en fait. Et ça, c'est juste génial, en fait.
Bah, oui.
La personne vit, existe, en fait, pour ce qu'elle est. Et, enfin, c'est, ouais.
Alors, j'ai fait un parallèle et je l'ai piqué à John Oliver, hein, qui est un présentateur américain de Late Show.
Anglais aux États-Unis.
Anglais aux États-Unis, pardon. Je m'écoute pas, je m'en fous. Quand on a cessé d'obliger les gauchers à écrire de la main droite, hein, le nombre de gauchers a augmenté à 12% de la population. Avant, de rester à 12% de la population. Et en fait, c'est un peu la même chose pour les personnes trans. Si aujourd'hui, il y a un pic lié à la libération de la parole et du droit, et en fait, ça arrivera assez vite à un plateau. Parce que, vous voyez, parce que quand on connaît le parcours d'une personne trans, lisez un, et ou réécouter le parcours de Jules qu'on avait fait dans l'émission, c'est pas un grand moment de plaisir, hein, ouais. Je veux dire, c'est pas simple, hein. Donc voilà, donc oui.
Mais moi, je fais partie du lobby des gauchers. Alors effectivement, vrai. On a un plateau de 12%, mais on va vraiment conquérir le monde. Faites attention, les droitiers. Non, enfin, je veux dire,
oui, c'est
d'une, c'est un ridicule, mais c'est absolument vide.
Donc, le plateau, il se situe, d'après plusieurs études, autour de 0,6 à 1% de la population. Ce qui d'ailleurs corrobore les études sur la biologie ADNique, mmh. dont je vous parlais avant.
Oui.
Donc, on est vraiment, personne n'est surpris de ce plateau-là. Parce que voilà. Même si, et je le redis, rien ne prouve aujourd'hui qu'il y a un lien génétique à la transidentité. Je ne reliais pas les deux pour dire on a l'explication, c'est pas du tout mon propos, c'est juste que les chiffres sont dans la fourchette, c'était 10%, hein, je vous disais, d'un point de vue biologique, 1% dans la population, voilà. Bon, on est dans des trucs qui sont à peu près cohérents. Donc en fait, c'est toute catégorie d'âge confondue, ça veut dire 700 000 personnes en France, hein. Voilà, au maximum. Si on prend 1%.
Ouais.
Moi, j'ai vu des modes qui étaient quand même beaucoup plus efficaces que ça. Genre, par exemple, les chaussettes claquettes. c'est beaucoup plus vite répandu. Et voilà. Donc, longue chaussette claquette 1, transidentité 0.
La barbe des hipsters.
Ouais.
Parlons-en de la barbe des hipsters.
Alors, elles ont aussi, dans leurs arguments, un truc que je voulais souligner, je vais le faire vite, pardon. C'est aussi de parler, elles nous disent, oui, mais regardez, par exemple, en Suède, avant, on pouvait transitionner à la l'âge de 16 ans et maintenant ils ont remis à 25 ans. Alors c'est bien la preuve que, eh ben c'est juste la preuve, espèce de cruche, que la Suède a brillé à l'extrême droite. Et oui, parce que les démocrates de Suède sont un parti d'extrême droite. Bon, je sais, c'est compliqué. Ils ont caché derrière.
Ouais,
non,
mais
c'est un parti d'extrême droite. Et en fait, qu'un parti d'extrême droite ait décidé de pourrir la vie aux LGBT, je suis pas super surpris. Donc évite de prendre cet exemple, il est débile.
Mais oui, en plus, donc, voilà, en fait, on en parlait en préparant le truc, c'est quand on dit toujours oui, ailleurs, c'est.
Oui, ouais, mais qui sauf dirige que, ailleurs.
Oui, c'est ça, même le ailleurs, en fait, il faut le recontextualiser. Et effectivement. Enfin, tu fais bien de le dire parce que.
Alors, je vais juste rappeler que la Suède, depuis qu'elle a pris l'extrême droite, les LGBT sont de plus en plus emmerdés, le droit des femmes recule et accessoirement, le droit des prostituées, qui était quand même l'un des endroits où elles étaient le plus protégées, est en train de reculer aussi, ce qui redonne la main en fait au MAC. Donc merci l'extrême droite. Non mais voilà, quand on prend un pays en exemple, on va au bout de l'exemple et voilà, pour des féministes, on passe un peu à côté là. Bref. Et donc, parce que quand même. À chaque avancée, pour plus de liberté des individus, on voit apparaître des personnes pour chercher à expliquer que l'autre n'a pas le droit à ses nouveaux droits. Après tout, certains se demandaient si les Noirs avaient une âme, si les femmes avaient un cerveau, si l'utérus n'était pas le siège de la folie, etc., etc., etc. Rien de neuf là-dedans, c'est le truc historique habituel. Quand le balancier va d'un côté et avance vers le progrès, eh bien, il y a toujours des gens pour essayer de le retirer dans l'autre sens avec les arguments les plus fallacieux possibles. Mais ce qui me pose personnellement plus de problèmes, c'est de voir des gens se disant de gauche ou du moins progressistes portaient aujourd'hui ces discours finalement d'extrême droite et reposant sur des éternelles divisions en sous-catégories humaines, parce qu'on en est là en fait, hein, globalement, parce qu'on va rappeler quand même qu'il n'y a pas que des transactivistes comme elles le disent, il y a des personnes trans et ce sont des personnes et qu'elles ne sont pas forcément militantes, elles ont un vécu, elles ont un droit d'exister et vous êtes en train de leur nier le droit d'exister.
C'est ça en fait, parce que souvent en fait ces personnes quand elles s'expriment, elles nous parlent toujours du transactivisme, etc.
Ça doit être quoi, 200 personnes en
mais France, ouais, en fait, c'est ça. Tu te dis, mais attends, en fait, t'es en train de prendre l'exemple. Alors, en plus, moi, je suis militant de différentes choses. Et en fait, oui, dans le militantisme, en fait, des fois, on peut faire de la merde. C'est un fait.
Oui,
des fois,
excès,
il peut y avoir des excès,
ça,
etc. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas te baser sur un milieu militant pour nier le droit d'existence de tous les gens qui sont concernés par le sujet en fait, quoi.
Tout à fait.
Enfin, c'est d'une violence absolument dégueulasse, ouais. Quoi, vraiment.
C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait cette chronique en ayant un saut pas trop loin.
Ouais.
Et ne nous mentons pas, les soutiens à ces penseuses venant uniquement de la droite et de l'extrême droite, leur relais au sein des complotistes français et autres, leur soutien d'ailleurs personnel, hein, parce que Dora Mouto a soutenu des anti-vax, par exemple. Donc on voit qu'à un moment donné, il y a des liens qui se font. Ne peut pas nous laisser continuer à croire qu'elle serait candide ou associée malgré elle à cette fachosphère, à cette conservatosphère. Non, elles y sont bien, elles y prospèrent. Bon, elles jouent les éternels choqués, mais c'est aussi une posture politique de jouer les éternels choqués, de faire croire que non, c'est pas vrai, j'ai pas changé. Bah si, vous avez changé. Donc elles font des choix, et elles ont fait le choix de suivre la vague réactionnaire du moment. Il y a des gens qui aiment bien faire du surf, et moi perso, j'aime plutôt être à contre-courant en ce moment. C'est un choix. Voilà. Alors, il paraît que les codes, ils sont tout chamboulés. Oui. Tout ça, que parfois l'activisme il pousse à des excès, sans déconner. Alors vous pensez vraiment qu'on change le monde sans le secouer, sans faire d'erreurs, sans qu'il y ait des excès? Ben non. Par contre, choisir la haine, ça reste une volonté, et c'est un choix extrêmement politique.
C'est ça.
Voilà.
Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, moi je l'ai vu cet échange-là qu'il y avait dans une émission sur France 2, c'était absolument dingue. Alors ça prend déjà une posture de victimaire, c'est-à-dire que si les trans existent, ça va nier le droit des femmes non trans.
Ben
bah pourquoi? En fait, pourquoi? En fait, tu te dis, mais quelle est la construction mentale, militante qui t'amène à te dire, bah tiens, les droits des autres, si les autres devaient pouvoir être à mon égal, oh là là, moi ça va m'en enlever. Ben bah, de quoi en fait?
Ben c'est tout l'inverse, hein. Plus les gens sont libres, plus tu l'es. Hein.
Ben oui, en fait, il y a vraiment quelque chose de assez fou, et ce qui est assez fou aussi quand même, enfin, il y a quand même dans certains, j'ai pu voir certains posts de certains énergumènes qui se disent anar et tout, qui partagent ce genre de choses-là et qui remettent la biologie au centre et tout. Et tu te dis, mais la biologie au centre. Mais en fait, arrêtez de vous soigner et laissez-vous crever, en fait.
Ah, mais oui,
parce que je veux dire, l'histoire d'humanité, c'est aussi ça, en fait. C'est-à-dire de dépasser une pseudo-naturalité, je sais pas quoi.
D'ailleurs,
mais oui.
Sinon, on serait plus là.
Et tu te dis, mais c'est complètement fou, on en arrive à.
Je suis pas sûr que si on était restés des êtres 100% biologiques, on serait en train de faire la radio sur Radio Canu, vous voyez, par exemple, qu'on aurait des vaccins, qu'on pourrait avoir des moyens de contraception, qu'on aurait inventé. Voilà, tout ça, c'est faux. La biologie, c'est un fait premier. Voilà, comme on est tous des animaux biologiques, il n'y a pas de souci.
Oui.
Par contre, l'être humain a depuis très longtemps dépassé ce statut d'être uniquement biologique. Et encore une fois, la perception des uns et des autres, des unes et des autres dans une société, relève en réalité de la société et donc de la construction qu'on a autour de tout ça et pas du tout de l'aspect biologique des choses. C'est juste une aberration de nous ramener à être des primates uniquement et qui aurait une espèce de truc. Parce que à revenir comme ça, moi je suis désolé, mais c'est exactement les courants naturalistes qui ont dans l'histoire justifié les pires trucs.
Ah, mais c'est exactement
de l'esclavage
ça.
En passant par le patriarcat, c'est toujours ces courants-là qui sont venus tenter d'expliquer des choses qui étaient totalement aberrantes et fausses. Ah, oui. Voilà, et on revient aujourd'hui. Et ce qu'il y a de terrible, je vais le dire parce que je le pense, c'est que ces militantes-là et ces courants-là d'extrême droite et conservateurs s'attaquent aux trans parce qu'ils sont pas beaucoup, justement.
Oui.
Et parce que, justement, ils ont du mal, les personnes trans, à faire masse seul. Oui. Donc c'est là aussi notre rôle à nous qui ne sommes des cis, comme on dit, c'est-à-dire pas des personnes trans, aussi d'être des alliés et aussi d'être aux côtés des personnes trans dans ces moments-là et d'envoyer et de renvoyer dans leur 22 dès que vous entendez quelqu'un qui tienne ces propos-là. Parce qu'en réalité, ces propos, ils sont d'une violence absolue et ça fait des morts. Pardon, mais je suis désolé, c'est comme l'homophobie, hein, la transphobie, la haine anti-homosexuelle, la haine anti-trans, ça fait des morts. Et faut arrêter de croire que c'est pas vrai. Il y a des gens qui se foutent en l'air aujourd'hui encore, juste parce qu'il y a quelques personnes qui sont un tout petit peu dérangées, que leur code soit tout chamboulé. Ben, rien à foutre.
C'est ça. Et donc là aussi, c'est-à-dire que là aussi,
je sais pas comment finir,
que ça soit pour les personnes trans, LGBT ou le Bélarus, la solidarité est une arme.
Toujours.
On passe à la musique ?
Oui.
À peine tombé de ma mère, le temps d'apprendre à marcher. Je me suis assis en primaire et j'ai compté les années. Tu travailles ou bien tu t'écrases, je préfère me bagarrer. Jamais je rentre dans les cases, je suis pas rond, je suis pas carré. Être une marionnette, je coupe les fils, je me détache. Maintenant je n'en ferai qu'à ma tête. Je veux plus être une marionnette, je tiens debout seul et je marche. Je suis comme un enfant qui vient de naître. Apprends par cœur et obéis, ça nous prépare pour la suite. Y'a ceux qui verront du pays et ceux qui feront les 3-8. Quand je vois les températures, moi je suis pas candidat. Au moins si j'ai plus de futur, j'ai plus besoin d'agenda. Je veux plus être une marionnette, je coupe les fils, je me détache. Maintenant je n'en ferai qu'à ma tête. Je veux plus être une marionnette, je tiens debout seul et je marche. Je suis comme un enfant qui vient de naître. Marionnette, putain d'époque, découper les liens, libérer les mains. Plus besoin de maître de ventriloque. Nous ne sommes rien, mais nous sommes pleins. Pauvre marionnette, putain d'époque, découper les liens, libérer les mains. Plus besoin de maître de ventriloque. Nous ne sommes rien, mais nous sommes pleins. Pauvre marionnette, putain d'époque, découper les liens, libérer les mains. Plus besoin de maître de ventriloque. Pauvre marionnette, putain d'époque. Découper les liens, libérer les mains. Plus besoin de maître de ventriloque. Nous ne sommes rien, mais nous sommes pleins. Maintenant je n'en ferai qu'à ma tête.
Et c'était Marionnette du groupe Rookin. Vous êtes toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu.
Et c'est où Radio Canu ?
C'est Lyon.
au 102.2 ou sur radiocali.org.
Bah, les gens savent si
oui, ils sont en train de nous écouter, c'est un peu supportable. Et oui, et vous aurez donc compris que c'est un titre choisi par Clara. Voilà. Bah oui.
D'accord.
Bah non, parce que c'est comme ça, quand les gens annoncent, on le dit.
Bah oui.
Donc du coup, bah, moi j'ai une petite brève à annoncer. Ouais. Alors, c'est dans le cadre, je crois, de Biennale Trace. Alors je crois que ça s'appelle comme ça, c'est « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État ». C'est une rencontre et conférence avec Stéphane Lecourant, mercredi 9 novembre à 19h à l'ECG. Donc après une enquête de plusieurs années auprès d'une quarantaine de sans-papiers, Stéphane Lecourant, qui est anthropologue et chargé de recherche au CNRS, restitue avec humanité leur expérience. Il raconte des vies façonnées par la crainte de l'arrestation ou de la dénonciation. C'est donc une rencontre en présence de l'auteur du livre « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État ». Alors ça se déroule dans le cadre de la Biennale Trace, qui fédère une multitude de propositions portées par une grande diversité d'auteurs et d'autrices qui toutes travaillent les questions qui entourent les migrations d'hier et d'aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et donc c'est à l'ECG, et l'ECG c'est l'espace communal de la Guillotière à l'annexe, c'est 45 rue Brèche-Velin à la Guillotière 69007 Lyon. Voilà.
Très bien. Et moi je re-annonce. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais je m'en fous, je le dis. J'en ai rien à foutre, moi. C'est juste que le festival Brisons le silence contre les violences conjugales, qui est organisé par l'association Filaction, qu'on a déjà eu la chance, enfin le plaisir de recevoir dans les studios de la Causerie et de Radio Canu.
Et qui reviennent quand elles veulent.
Ouais, et ben il commence le 12, donc samedi prochain, et ça aura lieu jusqu'au 27 novembre sur la métropole lyonnaise. Et au programme, hein, une vingtaine d'actions culturelles, théâtre, ciné, concerts, balades urbaines, expositions, danse, qui permettront d'échanger et de briser le tabou autour des violences conjugales. Et elles disent, nous espérons cette année encore sensibiliser des milliers de personnes. Donc renseignez-vous, hein, vous tapez filaction.org et vous tomberez sur le programme. Voilà.
Il va falloir les aider parce que Laurent Wauquiez leur a retiré une subvention.
Tout à fait.
Voilà.
Et avec l'aide de l'extrême droite.
Oui, bah oui, ça, bah, c'est Laurent Wauquiez, quoi. Et donc du coup, aussi dernière info quand même. Samedi 15h, Bellecour, il y a une manifestation de soutien à la manifestation, pas du tout, à la révolution iranienne. Voilà. Et plus on est nombreux, mieux c'est. En plus, on peut apprendre à chanter. Non, mais je dis ça parce que ça peut paraître bizarre, mais étrangement joyeux, cette révolution là-bas, et c'est étrangement joyeux ici aussi, donc voilà, venez, parce que vous pourrez aussi dialoguer avec des Iraniennes et Iraniens qui pourront vous expliquer un peu ce qui se passe sur place, et puis aussi bah, peut-être vous donner un petit peu je sais pas comment dire, du recul aussi par rapport à ce qu'on a de très peu dans les médias finalement, parce que souvent, bah, parce qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des liens directs, ils ont des infos que...
Alors que là, c'est effectivement un peu le blackout sur l'information qui en sort.
Bah, disons que le régime serre de plus en plus la vis, ça devient très compliqué, mais que de ce que l'on sait, les révoltes continuent, les insurrections continuent, et que malgré les morts, en fait, eh ben, on sort tous les 40 jours pour se rappeler des morts, mais on refait une manif pour se rappeler des morts d'il y a 40 jours. Donc en fait, c'est assez fou. Pour avoir lu d'ailleurs le témoignage d'une Iranienne qui expliquait qu'elle est sortie le premier jour en se disant qu'elle sortirait une journée et que ça fait maintenant presque 50 jours qu'elle sort tous les jours, elle aurait jamais cru qu'elle vivrait ça et que pour elle, c'est juste impossible d'imaginer s'arrêter. Voilà. Et je comprends ce qu'elle veut dire par ces mots-là.
Ok, et ben voilà, nous on arrive à la fin, on va se quitter en musique évidemment, on vous donne rendez-vous dimanche prochain 22h-23h sur l'antenne de Radio Canu, toujours au 102.2 sur la bande FM et sur radiocanu.org, et c'est Fab qui nous annonce le dernier titre.
Oui, alors c'est Maya Barou avec Ringo, et moi Maya Barou j'aime beaucoup, c'est une franco-japonaise qui chante selon une technique de chant traditionnel japonais, ajoute de l'électro et de la trance dans tout ça, et rajoute un peu de jazz et des trucs en français. C'est vachement cool.
Et
Maya Barou, c'est trop top.
Et voilà. Merci pour la découverte. Et puis dimanche prochain, 22-23, sur l'antenne de Canu. Des bisous. Ciao.
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 Lingo.
tout premier passeport, quand j'étais adolescent, à la rubrique profession, j'avais marqué promeneur. Mais je partais avec ma guitare et il m'est arrivé des fois de faire du stop alternativement d'un côté et de l'autre de la route. En me disant le premier qui s'arrête m'amène vers le nord ou vers le sud. Me laisser porter comme un bouchon de liège, quoi. J'adore ça.
Qui en est.